Fallo, qu'est-ce que vous êtes venu faire à Marseille aujourd'hui et demain?
Ben, je suis venu tout d'abord soutenir mon collègue Erwan Redon, qui est convoqué en commission disciplinaire aujourd'hui à l'inspection académique pour des motifs que je considère comme fallacieux, insuffisance professionnelle. Nous le savons, Erwan Redon, c'est un enseignant consciencieux, c'est un militant pédagogique, c'est un citoyen engagé dans la cause de la défense des droits de l'homme et des droits de l'enfant. Donc je crois que c'est malheureusement une tendance aujourd'hui de l'inspection académique et plus largement du pouvoir politique que de criminaliser les enseignants qui sont en résistance alors qu'ils essayent de faire leur travail le plus consciencieusement possible avec de fortes convictions.
Le mouvement des désobéisseurs dans l'éducation nationale est né d'une lettre ouverte qui a été publiée par des journaux que vous avez écrite au mois de novembre 2008. Quel bilan vous faites depuis la publication de cette lettre de ce mouvement ?
Je crois que ce mouvement est totalement inédit dans l'éducation nationale. C'est la première fois que des centaines, des milliers d'enseignants entrent en résistance et en désobéissance pédagogique de façon ouverte, en assumant le risque de la sanction. Donc déjà, le fait même que ce mouvement existe de façon spontanée, organisé en réseau, déjà en soi, je dirais que c'est une première victoire. Ensuite, je crois que nous avons réussi tout au long de cette année, à force de textes, à force d'explications, à convaincre du bien fondé de notre démarche, notamment auprès des parents d'élèves. Et c'est vrai que nous avons eu assez massivement le soutien des parents d'élèves de nos classes par rapport à notre démarche. Je crois que quand on explique qu'effectivement nous refusons de mettre en place des dispositifs qui sont globalement néfastes pour les élèves et qu'à la place, nous nous efforçons de construire des alternatives pédagogiques qui vont dans le sens de la coopération et de la réussite pour tous, eh bien nous montrons aux parents d'élèves qu'effectivement c'est un mouvement responsable, que nous sommes des enseignants consciencieux qui ont à cœur les missions qui nous ont été confiées. Et je crois que cela aussi, ça fait partie du bilan positif de ce mouvement. Alors bien sûr, on pourra toujours nous dire que nous sommes que 3000 sur 350 000, mais il y a aussi plusieurs milliers d'enseignants qui sont en résistance et en désobéissance sans l'afficher ouvertement. Ce qui est sûr, c'est que ces réformes ne passent pas. Ces réformes ne sont pas appliquées de façon majoritaire et je crois que plus cette résistance sera affichée, sera ouverte et plus nous aurons des chances d'être entendus et au final je suis assez confiant qu'un jour ou l'autre ce mouvement portera ses fruits.
Quelle est l'attitude des syndicats de l'éducation nationale vis-à-vis de ce mouvement ?
Alors au niveau des syndicats, évidemment, ils ont été surpris par l'émergence d'un mouvement de désobéissance civile, de désobéissance pédagogique. Ce n'est pas dans leur tradition que d'appeler à ce type d'action. Je crois que certains syndicats ont fait un bout de chemin, ont commencé à réfléchir, ont été sensibilisés, je crois, aussi à la pertinence de notre démarche. Et tout notre travail va être de les convaincre que sans eux, eh bien, nous ne pourrons pas obtenir gain de cause. Nous avons besoin des syndicats, nous avons besoin de leur force de frappe, de leur logistique, pour que, ensemble, enseignants, syndiqués ou non syndiqués, nous puissions, avec le soutien des parents d'élèves, à créer une pression suffisante dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, sur ce gouvernement, de façon à être finalement entendu.
Mais pourquoi, dès l'origine, avoir créé ce mouvement de critique et de contestation en dehors des syndicats ?
Au départ, c'est l'initiative d'une lettre qui marque une démarche d'obligation de conscience. On ne peut jamais savoir quel peut être l'effet d'un tel acte. C'est vrai que l'audace du geste a certainement contribué à créer un électrochoc auprès des enseignants du primaire. Maintenant, je crois qu'on a fait un grand bout de chemin. Le mouvement qui est parti de lettres personnelles de désobéissance est devenu un mouvement collectif de désobéissance. Et je crois que nous avons un gros travail d'explication en direction des syndicats pour qu'ils comprennent que la désobéissance civile, ce n'est pas seulement une démarche personnelle. C'est certes un engagement personnel, mais qui s'inscrit dans une démarche collective, un mouvement collectif qui ne peut être efficace que par la force du nombre.
Il y a une multiplication des sanctions là, vis-à-vis d'enseignants désobéisseurs. Vous êtes vous-même en ligne de mire d'une procédure disciplinaire ?
Oui, je suis convoqué à l'inspection académique de Toulouse le jeudi 9 juillet pour répondre de quatre faits. Refus d'obéissance, manquement au devoir de réserve, incitation à la désobéissance collective et attaque publique contre un fonctionnaire de l'éducation nationale. Nous sommes là sur des motifs qui n'ont peu à voir avec ma démarche professionnelle et pédagogique. D'ailleurs, mon inspecteur reconnaît que je fais du très bon travail. Mais nous sommes là sur des motifs, des faits qui sont sur un terrain politique. Et je crois que le débat que nous aurons sera un débat politique, philosophique, juridique, de façon à faire valoir que même si nous sommes fonctionnaires, nous avons un droit à l'objection de conscience. Il faudrait instaurer véritablement la possibilité d'une clause de conscience pour les fonctionnaires à partir du moment où ils agissent en toute transparence et en toute responsabilité.
Vous n'avez pas reçu l'ordre de votre hiérarchie, comme Fabien Casal, de ne pas vous adresser aux médias concernant cette activité ?
Mais pour l'instant, je n'ai pas reçu formellement cet ordre. Il est clair que le fait qui m'est reproché de manquement au devoir de réserve peut-être s'inscrit dans cette logique-là. Attendons de voir ce qui se dira jeudi prochain à l'inspection académique de Toulouse. Et ensuite, nous verrons bien quelle décision prendra l'inspection académique.
Est-ce que vous êtes optimiste sur le cas d'Erwan Redon ? Est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir conserver son poste de professeur des écoles ?
Oui, je pense que il serait extrêmement grave, quels que soient les faits que veut bien lui reprocher l'inspection académique, qu'un enseignant de cette valeur-là soit révoqué, soit licencié. Je n'y crois pas une seconde. Je crois que la mobilisation très forte depuis un mois a déjà porté ses fruits. Une pression s'exerce. Il a des soutiens de tous côtés. Donc je crois que, évidemment, toute sanction serait inacceptable, mais elle aura permis cette mobilisation d'éviter le pire.
Une dernière question, comment vous imaginez la suite du mouvement ?
Eh bien, je crois que nous allons continuer à réfléchir ces jours-ci à Marseille, avant de nous retrouver à Toulouse. Nous allons prendre le temps de faire le bilan de cette année. Nous allons tracer des perspectives pour la rentrée, car il n'est pas question évidemment de baisser les bras et de rentrer dans le rang. Comme nous l'avons dit, ce mouvement s'appuie sur des convictions fortes, des convictions profondes. Et malgré les sanctions, nous allons continuer en essayant de nous efforcer d'élargir ce mouvement, de le rendre encore plus important parmi les enseignants du primaire, en trouvant les mots justes, en trouvant les initiatives qui permettent de mobiliser largement et d'entraîner avec nous les syndicats de l'éducation nationale.
Merci.